Vincent Philippe, service militaire. Devant est assis un homme jeune. Il tient le volant. À sa droite, une femme. Élancée, longs cheveux blonds, quelques années de moins que lui. Elle le regarde avec tendresse. Elle l'aime. Il l'aime. Un amour manifeste. Ils ont l'âge de se marier. Ils vont bientôt se marier. Tout se passe selon les normes. C'est dimanche soir. Ils retournent à la ville. Là où il étudie, là où elle travaille. Ils n'habitent pas encore ensemble. L'époque où se situe leur jeunesse le veut ainsi. Sur la face intérieure des vitres, la fraîcheur de l'automne condense la vapeur des respirations et des conversations. Ils sont quatre dans la voiture. La banquette arrière est occupée par deux garçons, Julien et son copain Marco. Ils profitent du transport offert par l'homme et la femme pour regagner leur cantonnement. Ils rentrent d'une permission qui n'a duré qu'un week-end. Chacun dans sa famille. Le temps de flanquer par terre leurs uniformes de soldats et de retrouver avec soulagement des habits civils. On est allé cueillir Marco à l'arrêt de l'autobus en provenance de son village. Julien est à nouveau avec lui. Enfin, presque seul avec lui. C'est si rare. 2 heures plus tard, de la gare devant laquelle le couple les déposera, ils devront prendre un petit train qui les conduira jusqu'à la caserne, avec des dizaines de recrues, les soldats les plus tristes, perdus dans leurs rêveries, les autres, excités et tapageurs. Julien redoute déjà leur chambard grossier. Pour l'instant, sur son siège, il fait semblant de dormir. Pour prolonger la douceur de ses dernières heures de liberté. Marco s'est abandonné contre lui, la tête appuyée sur son épaule. Il a dû faire la fête tout le week-end. Il paraît épuisé. Dort-il? De temps en temps, il sort de son engourdissement et ouvre un œil. Qu'est-ce qui se passe? Où on est? Julien maudit le rugueux tissu vert de sa vareuse et de son pantalon. Il lui râpe la peau des jambes. Mais à travers cette écorce passe la chaleur de Marco, blotti contre lui. Un fluide pénétrant. Son copain a dû se baigner avec un savon parfumé avant de remettre son uniforme. Les sens de Julien sont en éveil. Il pourrait caresser les cheveux et le visage qu'il sent, qu'il voit dans la pénombre, à quelques centimètres de son menton. Il pourrait poser son bras sur l'épaule du dormeur et serrer celui-ci plus encore contre lui. Il se l'interdit. Il ne peut que se l'interdire. Mais il voudrait bien que ce voyage, cette proximité des corps, n'en finisse pas. À l'avant, l'homme et la fiancée parlent. Peu importe de quoi. Ont-ils la moindre idée de ce qui est vécu derrière leur dos, dans le silence? De jeunes soldats fourbus retournent à leur unité. C'est tout. On ne va pas se figurer autre chose. Julien est bouleversé. Il a fermé les yeux. Pour mieux ressentir l'intensité de son bouleversement. Les deux fiancés profitent de chaque arrêt de la voiture pour s'embrasser, bouche contre bouche, longuement. « Ça va, les garçons ?» demande de temps en temps la femme aux cheveux blonds. « Ça va ?» Julien n'avouerait à personne que, jamais jusqu'ici, il n'avait éprouvé un sentiment d'une telle violence. il a fait le vœu de se marier au plus tard dans les 3 ans. Par défi. Il serait normal qu'il se marie. Il l'a répété à tout le monde. Sa pensée est ainsi modelée qu'il ne saurait envisager un autre avenir. Avant de partir faire son service militaire, il avait accroché au revers de sa veste un petit écureuil en bois, muni d'une épingle de sûreté. Un talisman. Il avait annoncé qu'il l'enlèverait le jour où il serait marié. Il veut y croire. Ça finira bien par arriver. Même s'il n'a pas encore de bon ami, comme disent les gens. D'ailleurs, on lui demande souvent « As-tu une bonne amie ? Un beau frisé comme toi ?» Il donne toujours une réponse évasive. Pour étouffer les questions, il invente avec talent des histoires sur sa vie. Il est devenu habile dans l'art de faire diversion. Il hait le milieu militaire, sa laideur, les heures perdues à répéter des gestes 100 fois appris, la hiérarchie qui permet de confier le pouvoir à un incapable, qui transforme les soldats en pantins irréprochables, faciles à manipuler. Mais maintenant, il aime ces moments que l'armée lui offre, à cause de Marco. Julien a 20 ans. Au temps de ses 20 ans, la société obéit à des règles. L'armée est le symbole de ces règles. L'ordre et le désordre. Le bien et le mal. Le bien est ici. Le mal a alors un autre nom. Chaque fois que la troupe est en mouvement, les officiers savent le rappeler en désignant les brouillards de l'Est. Le mal s'appelle l'URSS, qui a écrasé les Hongrois insurgés quelques années plus tôt et qui menace nos libertés. L'Église aussi est du bon côté. Lors d'une fête religieuse dans un village, le soldat Julien a assisté, avec ses camarades catholiques, à une messe en plein air. Il y a vu 4 hommes de troupe, casqués et l'arme à l'épaule, entourer le prêtre portant l'ostensoir. Jésus dans l'hostie, sous bonne garde. Un jour d'été, pour une prise de drapeau, un colonel a rassemblé tout le bataillon sur une prairie au beau milieu des Alpes. Les hommes ont été alignés correctement sur l'herbe, en cordeau, compagnie par compagnie. Fin d'après-midi, le soleil déjà disparu derrière les montagnes, ne laissant plus qu'un liseré étincelant sur les cimes, à l'ouest. L'odeur fraîche des regains, les sonnailles d'un troupeau de vaches sur les hauteurs, la cloche d'une église, des toits de bardeaux pour couronner le volume d'un village assis sur sa pente. La paix alentour. Notre belle patrie. Alors, le colonel a enfoncé ses 2 pouces dans son ceinturon. D'un mouvement du cou, il a redressé sa casquette, puis il s'est lâché. « Regardez ce pays » s'est-il exclamé devant ses hommes. Ce merveilleux pays. Moi, je vous le dis, ceux qui osent le critiquer, qu'ils aillent donc à Moscou. Ainsi a parlé le colonel, comme doit parler un colonel. Tout là-haut, un évé est passé de l'or au gris du crépuscule. Julien a observé les hirondelles volant en rase-motte sur les pâturages, dans l'infinie beauté du soir. Il a tourné la tête vers Marco, qui n'avait sans doute pas écouté le colonel, ou distraitement. Son émotion a redoublé, et son trouble. Oser aimer un copain de service militaire alors qu'on est en âge de se marier, et que le spectre de l'URSS s'étend sur nos campagnes. Oser l'aimer quand Jésus, en qui il croit, est sous escorte militaire et qu'il a été enrôlé pour la défense de l'ordre. Le désir qui taraude Julien va à l'encontre des normes de la société que l'armée protège contre les visées des soviétiques. Julien s'interdit donc ce qui est interdit. Pire, il ne peut s'imaginer qu'il pourrait un jour braver l'interdit. Quand s'est-il aperçu que ce petit Marco commençait à lui remuer l'âme de fond en comble? Le décor est une place d'armes. Les bâtiments enduits d'un crépi grisâtre, de manière à tromper les observations de l'ennemi. Cet univers militaire, à l'écart du village, est adossé au mur vert sombre d'une montagne tout en longueur. Au pied des casernes, une plaine fermée par des bois. Plus loin, elle descend en pente douce pour rejoindre le grand lac. À l'arrière de celle-ci, les rares jours où il fait beau, des préalpes et des Alpes. Certaines nuits, le bourdonnement sourd des chars d'assaut en manœuvre sur des collines ravagées par leurs chenilles. L'armée brasse des hommes de tout le pays. Spontanément, une dizaine de garçons originaires comme Julien des mêmes montagnes et des mêmes vallées se sont regroupés. On les reconnaît à leur goût de la fête, à leur humour, à leur accent. On les voit toujours ensemble, dans les chambrées, à la cantine, au village, sur les terrains d'exercice. Un grand jovial, plutôt rond, toujours une blague à la bouche. Un étudiant à lunettes, compliqué mais bon camarade. Un petit gros fonceur et comique. Un timide taciturne. Quelques comparses. Les rejoint souvent un caporal barbu, la pipe éternellement entre les dents. Et il y a Marco. C'est un petit bonhomme au sourire espiègle, enjôleur. Cheveux châtains et lisses. Une mèche sage balaie le sommet de son front. Il a les yeux chauds et rieurs. Le menton presque imberbe. Il est tout en fraîcheur de peau. Tout le petit groupe l'adore. Il en est la mascotte, le lutin, le farfadet. Même les officiers et les sous-officiers les plus raides ont de la peine à l'engueuler quand il fait une bêtise. Et il en fait beaucoup. Julien n'a aucune peine à l'approcher. Et, très vite, Marco a fait de lui son préféré. Marco est un doux, un sensuel. Il est de ces personnes qui aiment toucher, garder longtemps la main d'un camarade dans la sienne, appuyer sa paume sur un bras nu quand la chaleur autorise les soldats à tomber la vareuse, enlacer un camarade ou le tenir par l'épaule et même appuyer sa joue contre une autre joue. Ces contacts électrisent Julien. Il fait toujours en sorte de se trouver aux côtés de ce petit frère. Ils ont toujours une histoire à se raconter, des sentiments à partager. Les corps jeunes sont des aimants qui s'attirent. Marco a la réputation d'être un coureur de jupons. À l'armée, chacun, sauf les silencieux ou les timides qu'on ne remarque pas, affiche ses exploits érotiques. Surtout la nuit, par-dessus les lits parallèles, après l'extinction des feux, ou le dimanche soir, après un congé. La réputation de Marco ne semble pas menteuse. Sa façon de parler des femmes, l'appétit et la jouissance qu'il trouve à les décrire par des mots voluptueux et succulents, ne sauraient tromper. Des mots de connaisseur. Julien est assez expert en mensonges pour reconnaître la nature de sa sensualité. Sous les douches, un samedi matin, il a osé contempler le visage d'ange de Marco ruisselant d'eau. Son corps mouillé, juvénile et bien bâti. La forme avantageuse de son sexe sous une touffe de poils noirs. Un autre camarade a plaqué alors sa main sur les fesses du garçon. Tout le monde a ri. Les soldats ont commencé à s'asperger comme des gamins, puis ils se sont séchés et rhabillés. Julien ne sait pas pourquoi Marco l'aime tant, et plus que les autres. Pourquoi il cherche sa compagnie, le prend par la main, se colle volontiers à lui. S'il en avait la liberté intérieure, il profiterait d'un instant où tous deux seraient seuls pour faire un geste de plus, pour en savoir davantage sur lui. Mais c'est le geste qu'il n'ose pas oser à cette étape de sa vie, même s'il ne cesse d'en rêver. La réputation qu'a Marco d'adorer les femmes est un refuge pour Julien. Il en est presque soulagé. Il peut nourrir ses désirs à l'abri de cette réputation. L'amitié qui les lie est une protection. Julien y trouve un large espace pour son imagination. Ils ont tous deux le fou rire facile. Quand la troupe doit prendre position devant la caserne, le matin pour l'appel, alors que les premiers rayons du soleil irradient le lointain Mont Blanc et que le lieutenant de service commande à ses hommes un garde à vous fixe, Julien et Marco, dressés côte à côte, ne se tiennent plus. Allez savoir pourquoi. Les deux casques voisins sont secoués par l'hilarité. L'officier les remarque tout de suite. Il est furieux. Il aboie. Les deux garçons se sont fait mal voir de la hiérarchie. Cela va leur coûter un week-end de permission. Alors que leurs camarades s'en vont prendre le train tout joyeux, ils sont consignés à la caserne. Marco fulmine. Il ne pourra pas voir sa copine du moment. Julien grogne aussi. Mais il est ravi. Il n'a pas de copine. Il restera presque seul avec Marco pendant 2 jours. On leur ordonne d'aller aux cuisines, corvée de patates pour le repas de la semaine suivante. Ils sont condamnés à peler des pommes de terre par centaines. Non point à la main, mais avec une machine. On y jette les patates. On enclenche le mécanisme. Les patates s'entrechoquent et perdent leur pelure. Ensuite, il faut les mettre dans des bassines remplies d'eau. Julien et Marco font à ce point les idiots, oubliant d'arrêter la machine, que les pommes de terre continuent à perdre du volume et finissent par ressembler à des billes. Nouvelle cause de punition. Mais le soir, devant une bière à la cantine, Julien regarde les beaux yeux de Marco. Il dévore sa présence, que personne ne lui dispute, et il savoure ce bonheur. Peu de temps après, Marco a invité Julien à passer avec lui un week-end de congé dans la grande ville où il est apprenti. Il y loue une chambre. Ils pourront y dormir. Le quartier où ils commencent leur virée, en début de soirée, compte une abondance de bistrots. Ils boivent beaucoup et mélangent tout. Bière, vin blanc, vin rouge. Julien et Marco sont en uniforme. Seuls en torse au règlement, ils ont coincé leur bonnet dans leur ceinturon. On peut les voir interpeller les passants, bras dessus, bras dessous, ou se tenant par l'épaule. Pour Julien, l'alcool est un meilleur bouclier encore que la réputation de coureur de filles attachée à Marco. L'alcool autorise l'audace. Il garantit l'impunité, car on pardonne les excès d'un homme qui a bu. Julien est ivre. L'ivresse libère des gestes qu'il a l'habitude de réfréner. Il s'accroche à son camarade de boisson et ne le lâche plus. Il n'a jamais été aussi proche de ce corps, et aussi longtemps. Et Marco, qui aime le contact, ne le repousse pas. Julien lui fait des déclarations d'amitié, enflammées et définitives. Il lui reste assez de lucidité et de vocabulaire pour savoir vêtir son amour de mots qui ne le trahissent pas. L'image de deux soldats en goguette dans la rue attire la bienveillance. On leur offre des verres et d'autres verres. Dans le café où ils ont pris leur repas, la patronne les autorise à faire la plonge pour régler leur addition. Il faut les voir, tous deux, devant les éviers, dans de grands éclats de rire et d'excitation. À la fin, on les fiche à la porte. Dans un autre bistrot, ils vont boire une espèce de digestif aux herbes alpestres, doux au gosier et qui enflamme l'esprit. Ils en commandent et recommandent. Combien ? 6 ou 8 ? À la fin, ils boivent cul sec et se retrouvent dehors, incapables de tenir droit. Ils s'effondrent sur le trottoir, agitant bras et jambes, hélant les citadins. Le ciel noir, ponctué par la lumière des réverbères, tourne, tourne toujours plus vite, chavire. Ils chantent des chansons grivoises et crient des bêtises. Ils ont trouvé le réflexe de rejoindre la petite rue où l'apprenti Marco loue une chambre. Deux étages à monter, deux zombies enlacés. La clé, où est la clé? La porte grince. La chambre est petite, un studio avec un lavabo. Il rit à nouveau, comme des collégiens. Il n'y a qu'un lit à une place. Ils n'ont pas de pyjama. Marco se couche nu du côté du mur. Julien le suit. Extinction des feux, comme à l'armée. Marco ne manifeste aucune gêne. En cherchant à se caler sous les draps ou en se retournant, il se frotte à son camarade en toute liberté. Julien se raidit. Tout près de lui, ce corps, nu, ce corps tout entier, cette peau, toute cette peau, l'odeur du garçon, sa figure si tendre, ses lèvres, ses cheveux qui frôlent les siens. Tout Marco avec lui. Il suffirait que sa main se pose là, ou là, ou qu'il prenne son voisin dans ses bras. Marco ne fait rien, ne fera rien que Julien puisse prendre pour une invitation, un signe, une tentation. Et Julien ne fait rien, ne fera rien de ce qui le brûle, de ce qui le met au supplice, immobile dans le désastre. La fatigue a fini par les endormir tous deux. Une année plus tard, après un séjour à l'étranger, Julien est venu poursuivre ses études dans la même ville, là où Marco avait trouvé entre-temps un poste d'employé. Il a repris la chambre de son camarade, qui avait désormais les moyens de déménager dans un logement plus confortable. Ils se sont vus, assez souvent, puis moins souvent. Marco avait mûri et était encore plus séduisant. Son sujet de prédilection, c'était toujours les filles. Il arrivait à Julien de se poster tard le soir sous ses fenêtres, qui étaient au troisième étage. La lumière était allumée. Il y avait sûrement une fille chez lui. Il devait faire l'amour. Ce n'était pas le moment de le déranger. Julien se trouvait ridicule. Un jour, il n'a plus osé sonner chez son ami, ni lui téléphoner. Et il ne l'a jamais revue.